I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditorices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Un podcast Binge Audio.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, ici, nous parlons sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs, de juifs, de musulmans. Notre podcast a choisi de mettre les pieds dans le plat en se baptisant Kif Taras. Race, c'est le gros mot ultime en France, pays des Lumières, ô combien universaliste, dont nous sommes tous et toutes citoyens et citoyennes indépendamment de nos couleurs, enfin officiellement. La République est donc injuriée à chaque évocation de la question raciale. Pourtant, ce mot que l'Assemblée nationale a souhaité rayer de notre Constitution est utile pour désigner les rapports sociaux hérités des temps coloniaux. Comment manipuler cette notion chargée historiquement et répondre aux accusations de racialiser le débat ? Être universitaire et travailler sur les questions raciales dans le contexte français, c'est notre sujet du jour dans Kif Taras.
Et pour en parler, nous avons invité Sarah Mazouz. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Bonjour Sarah.
Tu es sociologue, chercheuse au CNRS et tu es l'autrice de l'ouvrage « Race » paru en 2020 aux éditions Anamosa et co-autrice de « Pour l'intersectionnalité » écrit avec Éléonore Lépinard, également publié aux éditions Anamosa.
Alors chère Sarah, dans Kif Taras, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Est-ce que toi, tu te situes et si oui, comment ?
Je me situerais comme maghrébine, même si dans mon expérience, je ne le suis pas toujours visiblement. Et donc, il y a un jeu sur lequel d'ailleurs je suis revenue aussi dans un texte méthodologique. Voilà, je ne suis pas toujours minoritairement visible, mais c'est comme ça que je me situerais.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé cette situation ?
Oui, je l'ai réalisé assez tardivement, je dois dire, en vivant en France. Bon, et ça, c'est un schéma assez classique de se découvrir racialisé, racisé même, en arrivant... en tout cas, en sorte, parce que du coup, moi, j'ai grandi en Tunisie. Et donc, en arrivant en France, il y a eu quelques éléments qui m'ont... Mais que je ne percevais pas forcément directement comme étant au départ des formes de racisation. Et je dirais que le moment peut-être le plus... où ça s'est exacerbé, c'est au moment où j'ai fait ma propre demande de naturalisation. Et où, dans des interactions au guichet, notamment du service de naturalisation... Étant tunisienne, mais très diplômée, j'ai compris assez vite que je ne tenais pas ma place.
Et on te l'a fait comprendre de quelle manière, par curiosité, si tu veux en parler ?
Oui, j'en parle d'ailleurs aussi dans mon travail, puisque j'avais intégré ma démarche de naturalisation à mon travail de thèse sur la naturalisation. Notamment en me renvoyant au fait que, par exemple, on m'avait convoqué parce que mon dossier était trop chargé et on m'a demandé de retirer tout ce qui avait une valeur symbolique, notamment les diplômes, les lettres de prof, d'institutions prestigieuses.
Tout ce qui prouve que tu as vraiment une vie en France, quoi.
Aussi.
Notamment.
Ouais. Notamment. Et puis, pendant cette interaction, on m'a expliqué pendant tout le long qu'en fait, je ne savais pas remplir un dossier, ce qui était une façon de me rabaisser à quelqu'un au statut de quelqu'un qui n'était pas acculturé en fait aux us et coutumes de l'administration française.
Ah, c'est intéressant. Du coup, tu penses qu'en fait, en réaction à cette accumulation de diplômes, on voulait quand même te diminuer par d'autres moyens ou
Oui, je pense qu'en tout cas, d'accord. Ça a crispé cet agent. C'est pas du tout l'expérience après que j'ai eue quand j'ai dû passer ce qu'on appelle l'entretien d'assimilation linguistique. Mais l'agent qui a eu à traiter mon dossier trouvait que mon dossier était trop gros, me l'a dit comme ça, c'était ses termes, et que je l'empêchais de travailler.
Que tu l'empêchais de dormir, peut-être. C'est une autre question. Alors, Sarah, je l'évoquais rapidement pour introduire l'épisode. Ce mot « race » en France est explosif. Est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de ton livre? Et si c'est ton idée, et avec quel contexte ta démarche résonnait?
Alors, le livre était une commande d'Anna Moza, de cette collection qui s'appelle « Le mot est faible ». Et l'idée était donc de s'emparer de ce mot et de travailler dessus. Sachant que moi, je travaillais sur ça déjà et qu'Anna Moza m'a contacté parce que justement dans mon livre précédent qui est issu de mes travaux doctoraux qui s'intitule La République et ses autres, j'utilisais la notion de racialisation justement pour comprendre à la fois des choses comme ce que je viens de raconter, ce qui se joue dans les démarches, dans la conception en fait de la citoyenneté française, en prenant un moment très particulier qui était le moment aussi où devait se faire la reconnaissance de la question des discriminations raciales en France. Et où on a buté sur des résistances très fortes qui ont fait que finalement cette reconnaissance ne s'est pas faite. Et pour moi, articuler tout ce qui se jouait au début des années 2000 sur cette question, c'était en effet à travers la question de la racialisation. On comprenait à la fois cette difficulté, le statut de secret public en fait, de la racialisation et de la race dans le contexte français, où on ne reconnaît pas les méfaits de la race sur les personnes qui sont racisées et en même temps, l'État, et pas que l'État, mais en tout cas à travers ses agents, continue d'actualiser des formes de racisation, notamment à travers ses pratiques de naturalisation. Donc ça, c'était ce qui a poussé Anna Moza à me contacter. Et par rapport aux autres ouvrages qui avaient déjà été publiés dans cette collection, la difficulté avec race, c'est qu'au départ, race ne fait pas partie du vocabulaire de l'émancipation, à la différence de démocratie, de peuple, de révolution, etc., qui étaient les ouvrages parus à ce moment-là. Donc toute l'idée, c'était effectivement de montrer comment, en s'inscrivant dans l'histoire de ce concept, de sa formalisation, aujourd'hui, en l'utilisant, et notamment en l'utilisant au singulier, pour désigner un rapport de pouvoir abstrait qui s'incarne à chaque fois de manière situationnelle, c'est-à-dire selon les contextes, qui prend des formes différentes selon les contextes nationaux et historiques, comment aujourd'hui ça permet d'éclairer la façon dont ces hiérarchies qui sont héritées de l'époque de l'esclavage, de l'époque coloniale, etc., continuent d'informer des rapports de pouvoir très actifs aujourd'hui encore.
Alors tu écris justement que le mot « race » n'a pas bonne presse. Et c'est pourtant le mot unique que tu as choisi pour ton livre, donc simple et efficace. Donc tu veux dire que quand tu écris race sur ce livre, il n'est pas raciste.
Exactement.
Non mais est-ce qu'il faut, il faut replacer les choses dans le contexte français, parce qu'on a quand même tendance, comme tu l'as expliqué, à penser que le mot race, il est mauvais, c'est le mal. Et toi, dans ton livre, dans ce livre qui s'appelle « Race », tu défends l'usage critique du mot « race » et tu l'utilises au singulier, le mot « race ». Mmh. C'est-à-dire que c'est... parce que nous, on parle... Moi, je dis souvent, on parle de race sociale. Et d'ailleurs, dans une partie de ton livre, tu dis qu'il faudrait mieux juste dire « race », en fait. Comme les Américains disent juste « race ». Ils disent pas « social race ». Enfin, en tout cas, ce que j'entends dans les médias, c'est juste le mot « race ». Parce que tu écris que si on utilise le terme race sociale, ça laisserait entendre que d'autres conceptions de la race seraient possibles, alors que on est tous d'accord ici pour dire que la race biologique a été scientifiquement prouvée comme étant inexistante. Donc ce n'est plus un débat. Et or on est encore dans ce débat-là de répéter ça n'existe pas la race, ça n'existe pas. Donc pourquoi est-ce qu'on stagne?
Il y a plusieurs choses. En effet, s'il fallait résumer le livre race, l'idée principale, c'est de dire parler de race, c'est justement ne pas être raciste aujourd'hui. Après, pourquoi on stagne en France particulièrement? Mais on pourrait dire que c'est aussi, sous des formes différentes, quelque chose qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Europe continentale. Je pense que ça tient à plusieurs éléments. Disons que la façon dont dont les États européens ont négocié, disons, leur sortie en 1945 et la rupture qu'ils voulaient marquer avec les régimes collaborationnistes, ça a été dire « la race n'existe pas au sens biologique, et ne continue à utiliser ce terme que le racisme idéologique porté par l'extrême droite. Et à partir de ce moment-là, le racisme est devenu une question d'opinion politique dont qu'il fallait par ailleurs endiguer ou contenir en mettant en place des politiques d'immigration de plus en plus restrictives. Mais l'idée, c'était que le gros de la société et l'État étaient hors de tout soupçon. Et c'est d'autant plus paradoxal que ça se joue quand même à un moment où les pays européens sont encore des puissances coloniales, où là, on est dans un contexte où la race organise encore tout. Et donc, à partir de ce moment-là, on a complètement évacué la question de ce qu'on appelle le racisme systémique ou le racisme structurel, c'est-à-dire la façon dont des catégories racistes qui sont sédimentées et qui peuvent être reprises par des personnes qui ne sont pas activement racistes ou dans des décisions, par exemple administratives, juridiques, etc., et sans que la personne ait une intention raciste, continuent d'avoir cours. Et c'est sur ça qu'aujourd'hui ça coince, c'est-à-dire ça coince parce qu'on n'accepte pas. On a l'impression d'être moralement condamné comme si on était un raciste au sens du racisme idéologique porté par les partis d'extrême droite. Et on ne veut pas admettre qu'il y a autre chose, que le racisme joue autrement à travers un fonctionnement structurel, l'air de rien, dormant, mais qui est très vite facilement réactivé ou ordinaire en fait.
Parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est qu'avec la condamnation unanime des lois raciales, du nazisme, on a attribué le racisme à une frange du paysage politique et à des personnes particulièrement malfaisantes.
Tout à fait.
Et que du coup, c'est devenu à la fois une acception politique et une acception morale. Et qu'en fait, on ne parvient plus de ce fait à comprendre le racisme et la racialisation comme étant le fait de tout un chacun, d'une certaine manière.
Exactement. Voilà. Et on ne comprend plus non plus, pour revenir à une autre partie de la précédente question, cette idée que, justement, la race, ça fonctionne comme c'est une logique de hiérarchisation qui fonctionne comme le genre ou comme la classe ou comme l'âge ou comme la catégorie de sexualité ou comme la maladie ou la validité. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas admettre. Et en effet, il y a une espèce de double croyance qui est de dire la race n'existe pas, donc en fait, on ne regarde pas ses effets et ne pas voir les effets considérables sociaux. Et puis de dire, il suffit de dire que le concept n'a aucun sens pour lutter contre le racisme, ce qui est aussi complètement, pour le mieux, naïf, en fait.
Mais ce que je trouve très intéressant dans le contexte français, c'est qu'on ne dit pas le mot race, parce que c'est raciste de dire race, c'est ce qu'on croit.
Soi-disant.
Mais par contre, on a énormément de synonymes. Oui. Du mot race, c'est ce que tu écris dans ton livre, tu dis on peut dire par exemple ethnie et penser le mot race dans l'acception raciste du terme. Ouais. Mais on utilise ethnie, on utilise aussi multiculturel, on utilise origine. Donc il y a tous ces mots pour éviter de dire race, de dire peut-être quelle origine ou... Alors ça peut être juste origine, la question de quel pays d'origine viens-tu. Mais comme on ne pose pas forcément la question à des personnes blanches, par exemple. Il y a plein de personnes blanches qui me disent « moi, j'ai pas d'origine ». Bah si, en fait, t'as forcément une origine. Tu viens de quelque part, c'est obligé. Et donc, en fait, quand ils nous disent « d'où tu viens », en fait, c'est vraiment... c'est la question raciale qui est...
Non, mais c'est ça, la vraie question. C'est pourquoi t'as ces traits-là, en fait.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et je disais tout à l'heure, moi, que je suis souvent passée... Je passe, en fait, pour autre chose que maghrébine. Et c'est vrai que, par exemple, quand je disais « je suis tunisienne », d'un seul coup, les gens me disaient « ah oui, c'est vrai que t'es typée
». Typée aussi. Oui, voilà. On utilise typée.
C'est fou. Parce qu'en fait, ça les rassure qu'on puisse identifier les personnes non blanches.
Exactement.
Ouais. C'est dingue.
C'est dingue.
Est-ce que tu utilises le mot « haine » ? Parce qu'on entend beaucoup le mot « haine », par exemple, là, aux États-Unis, alors je fais un parallèle avec les États-Unis parce que c'est aussi un pays où on utilise le mot race librement, enfin librement, de manière académique aussi.
Ouais.
Là, ils viennent de passer le COVID-19 Hate Crime Act, donc qui reconnaît que c'est une période où il y a énormément d'agressions, de violences à l'égard des personnes asiatiques et sud-asiatiques aux États-Unis. Et donc, ce mot « hate crimes », donc qui est le mot « haine », les crimes, on n'utilise pas ce mot-là en France.
Non.
Est-ce que tu penses que c'est la différence entre la haine et le racisme qu'est-ce que...
C'est-à-dire que la haine est une des formes d'expression du racisme. Mais un des éléments importants, c'est de comprendre qu'on peut être raciste en s'exprimant de manière bienveillante et que ça ne se résume pas à ça. C'est-à-dire qu'en France, et moi j'ai aussi travaillé un peu en Allemagne, où là aussi il y a un passé très lourd, le fait de limiter la question du racisme à la question de la haine, ça fait perdre de vue tout ce qui est le racisme ordinaire. Donc, par exemple, Philomena Essay a montré les logiques et les ressorts. Voilà, ça peut être penser, faire un compliment et en fait assigner racialement quelqu'un parce que voilà, on va décider à sa place du trait qui serait pertinent dans son identité sans lui demander son avis. Donc voilà, la haine, bien sûr que c'est une expression et c'est sans doute l'expression la plus manifeste, mais ça ne résume pas la question du racisme. D'une certaine manière, malheureusement, parce que si on avait affaire qu'à de la haine, ça serait tellement visible qu'on arriverait à endiguer les choses relativement efficacement. Le problème, c'est toute cette façon dont le racisme et la race continuent d'irriguer toutes sortes d'interactions, toutes sortes de relations sociales sans que ça paraisse haineux. Et quand on vous dit « Ah, mais de quelle origine tu es ?» ou quoi, les gens n'ont pas forcément sont pas portés par une haine.
Oui, c'est quelque part, l'utilisation du mot « haine », ça revient un peu à l'antiracisme moral et ça peut freiner la conscientisation du systémisme du racisme.
Exactement, et sa politisation, du coup.
Moi, ce qui me pose problème dans le fait de circonscrire l'idée du racisme à la haine, c'est vraiment que ça crée une binarité en fait, entre oui. les méchants et les gentils, et que comme en fait, pour des raisons humaines, on se perçoit toujours comme étant du côté des gentils, enfin, à part quelques personnes, mais bon, c'est quand même assez rare de soi-même se poser comme méchant. Et ben, de fait, en fait, on estime que les racismes, ce sont d'autres personnes que nous-mêmes.
Oui, tout à
et
fait.
Donc, ça déresponsabilise aussi par rapport à la part qu'on peut prendre au phénomène raciste.
Absolument. Je pense que ce qui est très important, et c'est pour ça que je disais un rapport de pouvoir abstrait, c'est-à-dire, et qui après s'incarne de manière situationnelle, et quand je dis situationnelle, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que ça, c'est au niveau microsociologique, mais c'est au niveau d'un pays, et après, voilà, ça change. Et donc, il n'y a pas d'endroit où on échappe aux logiques de racialisation. Simplement, les logiques de racialisation et les marqueurs qui vont servir la façon dont on va inférioriser tel ou tel groupe vont changer d'un endroit à l'autre. Voilà, au Maghreb, on racialise aussi, mais autrement qu'en France, enfin avec des liens avec l'époque coloniale, mais pas seulement. Au Brésil, on va racialiser, mais autrement. En Inde, on va racialiser. Et pour nous qui ne sommes pas habitués à ces contextes, on est complètement perdu, on ne les voit pas, mais ils n'en sont pas moins réels. Donc, je crois que c'est vraiment très important de se dire que c'est un mode que les sociétés fonctionnent par des principes de hiérarchisation et que parmi ces principes de hiérarchisation à disposition, on a la race.
Et tu parles de fétichisation du mot race. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce terme que je trouve très intéressant ?
Eh bien, c'est-à-dire qu'on a l'impression que... c'est ce qu'on vient de décrire, c'est-à-dire qu'autour du mot, tout va se jouer autour du fait de dire le mot, ne pas le dire. Le dire, c'est y croire. Le supprimer de la Constitution, ça va tout régler. Et donc, on est autour, voilà, c'est comme si le mot lui-même avait un pouvoir et comme si ce qui comptait, c'était pas les processus qu'il désignait. Et c'est pour ça que, par ailleurs, on pense pouvoir dire ethnie et que ça va régler le problème. Alors que si on met derrière un sens essentialisant qui permet d'inférioriser des groupes, eh ben on arrive au même résultat. Voilà, et je pense que souvent, et c'est très caractéristique des débats autour de ces questions-là, en France, on s'accroche aux mots pour ne pas parler du problème.
C'est si tu dis « race » trois fois devant ton miroir, en portant
tu
du wax.
Tu deviens universaliste.
Non, mais on a peur de le dire, de peur d'être raciste.
C'est ça, exactement.
On utilise aussi le mot « couleur de peau » comme un équivalent total au mot « race ». Alors, tu l'écris dans ton livre que quand on dit blanc ou pas blanc, enfin, une personne blanche ou une personne non blanche, ce n'est pas donc, l'épiderme, enfin, la mélanine,
pigmentation,
la pigmentation qu'on désigne, mais la position sociale dans le processus de racialisation. Donc, la couleur de peau, comme un raccourci, encore un euphémisme, un synonyme et tout ça, toute cette question d'évitement du mot race pour être audible.
Et puis quand on dit couleur de peau, c'est comme si en fait la race était vraie. C'est-à-dire que c'est pas objectif en fait, c'est pas parce qu'on voit des gens. En fait, ce qu'il y a derrière la racialisation, c'est pas du tout, il y a absolument rien de logique. Et à partir du moment où tu dis couleur de peau, tu donnes l'impression que c'est quelque chose qui est identifiable, alors que tu nous as parlé de ton expérience, Sarah. Et c'est pas le cas. Et quand je vous vois toutes les deux, vous avez des couleurs de peau beaucoup plus proches l'une de l'autre que de moi. Et enfin, donc du coup, ça n'a pas de sens. Et le fait de vouloir donner du sens en mettant une idée de chromatique, en fait, c'est pour moi, ça entretient justement l'idée que la race n'est pas une fiction, alors que c'en est une.
Et que c'est un processus, et que comme on a reçu ici une professeure qui s'appelle Sylvie Laurent, qui nous a expliqué comment, par exemple, les blancs ethniques aux États-Unis sont devenus blancs, donc les Irlandais. ceux qui n'étaient pas WASP, donc les pères fondateurs des États-Unis, ont été intégrés dans la blanchité.
Progressivement.
Voilà. Ouais, et donc, c'est un processus, la racialisation, et ça, on va aussi en parler. Le concept de racialisation, il provient de travaux de W.E.B. Du Bois. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, donc c'est un peu...
Non, on dit Du Bois.
On dit Du Bois, voilà. On pourrait dire Dubois, quand même.
Ça arrive des fois. Aux États-Unis, des fois, les gens disent Dubois.
Ah oui, c'est marrant, ça.
Et nous, mais les deux sont en français.
En bon français.
Et de Frantz Fanon. Et peux-tu nous dire ce que c'est que ce processus de racialisation?
Oui, alors chez Du Bois, il y a le mot racialize, mais il ne thématise pas le concept. Enfin, il ne construit pas le concept. Il l'utilise comme ça pour dire, ben voilà, on crée des catégories raciales. C'est vraiment Fanon, dans Les Damnés de la Terre, à la faveur de l'expérience coloniale algérienne, puisqu'il écrit Les Damnés de la Terre à la fin de sa vie, après ses années algériennes, où il montre les processus à l'œuvre dans l'expérience coloniale et la façon, justement, dont des logiques de racialisation jouent et permettent à la fois d'inférioriser le colonisé et la culture du colonisé, puisque pour Fanon, la question de la culture est au cœur de l'entreprise coloniale, et comment ça met aussi en rapport colonisés et colons dans ce rapport de pouvoir, cette relation de domination. Après, ça a été repris par des sociologues britanniques et pas américains, comme on aime à le croire en France, qui ont voulu sortir de ce qui était au départ le concept utilisé dans la sociologie britannique de race relations, justement pour expliquer, parce qu'ils trouvaient que dans la notion de race relations, on restait trop tributaire de la question du racisme comme idéologie. Et donc, pour essayer de comprendre plus largement ces processus et ces logiques de racialisation qui sont à l'œuvre, ils ont repris ce terme de racialisation qui donc désigne voilà, la façon dont, à un moment donné, dans un contexte donné, une société va produire des hiérarchisations sur un mode racial. Et qu'est-ce que ça veut dire sur un mode racial? Ça veut dire que on va attribuer à l'origine d'un groupe, qu'elle soit réelle, fantasmée, qu'elle se manifeste par son phénotype ou par autre chose, une position inférieure, et on va donc essentialiser, on va la construire comme quelque chose, une réalité en soi, dont ceux qu'on rapporte à elle ne peuvent pas échapper, en fait. Donc, ils auront un certain nombre de qualités qui feront qu'ils seront comme ça ou pas comme ça. Et donc, c'est ça, la racialisation. Et c'est pour ça qu'après, donc, dans ces logiques de racialisation, on inclut, puisqu'on dit que c'est la façon dont la société produit du racial, dans ces hiérarchies, il y a des gens qui pâtissent de ces hiérarchies, et il y a en général un groupe qui en bénéficie. Et donc, c'est pour ça que dans les études sur la racialisation, on inclut la question de la condition blanche. Et en effet, comme tu le disais, c'est pas la question de la couleur de peau, c'est la question de... Bien sûr que comme la question raciale a été très historiquement liée à la question du phénotype et de la couleur de peau, on reste tributaire d'un vocabulaire coloriste pour désigner certaines situations qui sont en fait des rapports de pouvoir où la question de la couleur vient après, en général, comme justement la confirmation de cette différence radicale du point de vue, du regard racialisant. Mais on en parlait tout à l'heure avant que l'émission ne commence. Les Japonais se pensent comme blancs, alors que d'un point de vue européen, on ne les verrait pas comme blancs. Et il y a tout un truc, par exemple, sur le caractère mat des Coréens. Et donc là, quand on parle de conditions blanches, c'est le fait de se dire, ben, moi, je suis supérieure, je suis d'une manière ou d'une autre du côté d'un universel qui va me permettre d'imposer mes normes à tous les autres que je vois comme des particuliers.
Et c'est ce terme de racialisation, donc ça implique, comme tu le dis, la racialisation des avantageuses et la racialisation avantageuse, du coup, de ce groupe qui se pense pas racialisé, mais qui l'est,
oui,
en fait. Et c'est un terme qui est historiquement différent du terme de racisation, qui, lui, est issu des travaux de Colette Guillaumin,
ouais,
qui parle de personnes racisées, ce qui n'appréhende, en fait, qu'une partie de la racialisation, puisqu'elle parle de racisant et de racisé. Est-ce que tu peux nous parler de ce travail-là, de ce qu'il a apporté, justement, au fond social?
Colette Guillaumin, c'est une précurseur, en fait. Tout y est déjà, sauf qu'elle a sans doute écrit ça trop tôt et qu'elle n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Donc elle vient d'un travail, elle vient du féminisme matérialiste et au départ son travail c'est de mettre en parallèle les formes de domination liées au sexisme et celles qui sont liées au racisme. Et puis elle a travaillé après plus précisément sur l'idéologie raciste. Et en effet, ce qui l'intéresse elle, c'est de de saisir les logiques de domination et notamment ce que ça produit au groupe qui en pâtit. Donc les femmes pour le sexisme et d'où la façon dont elle conçoit le concept de racisation, entendu comme la façon dont le groupe dominant va construire comme une race les groupes qu'il domine sur le plan racial. Et donc d'où le terme racisé, qui là aussi est dénaturalisant et historicisant, c'est-à-dire de dire comment il y a un processus inscrit dans une histoire particulière qui va amener tel groupe à penser tel autre groupe comme étant une race. Et donc quand on pense tel groupe comme étant une race, c'est par définition qu'on la pense comme race inférieure. Et donc voilà, par exemple, on peut penser à l'antisémitisme européen et la façon dont, pour construire une Europe, je mets une intention, mais en fait, il y a un processus qui se fait de manière assez aveugle, mais l'idée de penser l'Europe comme étant blanche et chrétienne, eh ben, ça a contribué à construire les Juifs comme étant un groupe à part, pensé comme une race, et à qui on a commencé à attribuer des caractéristiques physiques et phénotypiques, alors même qu'au départ, à première vue, il n'y en a pas.
Mais la preuve, c'est qu'on leur a demandé de se marquer. C'est bien la preuve que ces caractéristiques, en fait, étaient de l'ordre du fantasme.
Tout à fait.
Mais ce que je trouve, en fait, intéressant, c'est que donc, Colette Guillaumin parle de personnes racisantes et de personnes racisées, mais en fait, si on racise les autres, on se racise comme implicitement.
Absolument.
Donc, ils sont aussi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est que du coup, il y a une forme de. On nomme pas les personnes dominantes comme étant racisées, mais d'une certaine manière, elles le sont, mais par elles-mêmes, avec leurs propres actions, avec leurs propres pouvoirs.
Elles sont racialisées.
Ouais.
Mais elles ne sont pas racisées, puisqu'elles. C'est elles qui dominent.
Ouais.
Et donc, c'est ça, quand on travaille sur la blanchité, donc sur la condition blanche, on travaille sur la racialisation des blancs, et on travaille sur la manière dont eux racisent les autres. Mais eux ne sont pas racisés.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Édition, on sort Mécanique du privilège blanc, un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram Semblant de Rien, sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Je pense que c'est une des fonctions de l'historien, surtout dans un monde où l'actualité va de plus en plus vite et que tout le monde croit toujours que ce qu'il découvre la veille, c'est nouveau. En fait, il y a une longue histoire. Là aussi, c'est, disons, par rapport au champ de la recherche, on s'est positionné un peu contre ceux qui nous parlent d'aveuglement à la race. De la République française aurait été aveugle à la race. Pas du tout. Quand on fait l'histoire de ça, on s'aperçoit que ça a été constamment au centre du débat, avec des positionnements, des définitions qui ont pu varier au cours du temps. Mais donc, il y a une histoire très longue de la France, la République française, par rapport à cette question de race. Et effectivement, toute une série de choses, même sur le racisme systémique, etc. Alors là, je dirais, c'est pas tellement amusant de vieillir, parce que soi-même, moi, je suis dans ces questions-là depuis les années 80, vous voyez. Donc c'est ça, il y a un peu aussi, c'est aussi une des raisons du livre, un peu une lassitude par rapport à des polémiques qui tournent en rond.
Vous en avez marre, vous le dites clairement, vous en avez marre des polémiques tous les trois jours sur les blackface, sur les dipinègres qu'on doit rebaptiser, etc. Vous dites qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça
nous apporte, et même d'un point de vue politique, qu'est-ce que ça apporte, même aux professionnels de la politique, à ceux qui ont des responsabilités, qu'on tourne en rond comme ça pendant des décennies sur les mêmes sujets.
Alors, qu'est-ce que ça nous apporte?
En plus, lui en a marre des polémiques, nous en a marre du racisme, donc là, c'est pas comparable en fait. Alors, donc, c'était Gérard Noiriel au micro de Léa Salamé sur France Inter en février dernier. Donc, c'est un historien qui a écrit un livre récemment sur la question de la classe socio-économique. Et il y a cette idée en France que la classe socio-économique serait... Enfin, il y a une hégémonie, en fait, tu l'écris dans ton livre, de la classe socio-économique sur les autres domaines des sciences sociales. Et la reconnaissance tardive de la catégorie raciale comme un sujet d'étude, sujet académique, il révèle en fait cette hégémonie.
Oui.
Et donc là, il y a clairement ce que tu appelles une stratégie de délégitimation de ces études, de ce champ de recherche dans lequel tu opères. Comment est-ce que tu reçois, toi, les tentatives de disqualification de la race dans ton domaine de travail, d'études ?
Ben, à la fois avec beaucoup d'agacement et de lassitude,
bah
parce que pour le coup, je suis un peu fatiguée et lasse aussi. Et puis comme je suis jeune, je vais avoir beaucoup de temps encore pour être lasse et fatiguée. Mais non, plus sérieusement, je pense que... Bon, alors d'abord, ces formes de légitimation, c'est ce qu'on explique avec Éléonore Lépinard, on les a déjà vues pour le genre. Et donc là, ça heurte encore plus parce que c'est la race et qu'il y a un tabou encore plus grand sur la race. Mais ce qu'elles mettent en évidence, ben, c'est ce qu'on appelle l'ignorance, en fait, les épistémologies de l'ignorance. C'est-à-dire, non pas, là, ça s'entend très fortement, parce que Gérard Noiriel dit que ça existe depuis longtemps. Non, ça n'existe pas depuis longtemps. Et lui, ce qu'il a fait ne correspond pas à ce qu'on fait. Il a travaillé sur l'immigration, en venant d'un travail d'historien sur les ouvriers. Il est resté sur cette question de l'immigration, en refusant de parler de discrimination, puisqu'il dit plutôt stigmatisation ou humiliation. Et il est resté aussi sur une lecture du racisme comme du racisme idéologique. Et donc de la condamnation morale du racisme et d'un refus de travailler sur la manière d'agir structurellement. Donc déjà, voilà. Et puis l'ignorance, elle apparaît donc dans le fait de ne pas prendre en compte ce qu'apportent des travaux plus récents avec de nouvelles perspectives et plus précisément les travaux qui intègrent dans leurs résultats, dans leur démarche et dans leurs résultats, ce qui est issu d'une expérience minoritaire. Et c'est pour ça que là, dans ce qui apparaît dans toute cette espèce de polémique qui n'a pas grand sens, en fait, parce que ce n'est pas un vrai débat critique avec des gens qui auraient vraiment lu, qui ne seraient pas d'accord, là, ça serait super, on pourrait se nourrir de ces critiques. Là, c'est des gens qui ne lisent pas, qui ne veulent pas bouger de position et qui... ignorent, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas en compte. Et donc, leur position, ce n'est pas juste une question politique de marxistes old school qui pensent que tout va se régler quand on aura réglé la question de la redistribution économique. C'est aussi une posture épistémologique qui est de dire, voilà, moi, je vais me objectiver tout ça et j'objective en arrivant à neutraliser ma propre position et en pensant que toutes les positions, du coup, peuvent s'équivaloir. Et puis, donc moi, je vais pouvoir expliquer tout ce qui se passe en ne supportant pas le fait qu'un savoir puisse se créer à partir des expériences minoritaires. Alors que voilà, tout le travail que nous, on défend, notamment avec Éléonore Lépinard, c'est aussi de comprendre ce qu'on appelle les épistémologies du point de vue, qui sont marxistes et féministes.
Alors, sur 5 colonnes, Le Figaro titrait vendredi, vous l'avez sans doute lu, confirmant une vague de témoignages préoccupants, l'islamo-gauchisme gangrène les universités. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable. L'université fait partie de la société. Alors, ce que l'on observe dans les universités, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent utiliser leurs titres et l'aura qu'ils ont. Ils sont minoritaires, et certains le font, pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes. Mais le monde universitaire de l'islamo-gauchisme, vraiment en regardant toujours tout par le prisme de leur volonté de diviser, de fracturer, de désigner l'ennemi, etc.
Ajoutez aussi les indigénistes qui disent la race,
absolument,
le genre, la classe sociale, tout ça, ça forme un
absolument.
Tout.
Absolument. D'ailleurs, en biologie, ça fait bien longtemps que on sait que il n'y a qu'une espèce humaine et qu'il n'y a pas de race. Donc, vous voyez à quel point je suis tranquille avec ce sujet-là.
Vous êtes tranquille, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Vous avez des minorités, mais elles sont agissantes.
Mais dans les universités, et c'est ce qu'il faut dire aussi, hein, il y a la réaction de tous les chercheurs académiques qui revendiquent le droit de chercher, d'approfondir les connaissances, librement. Et c'est nécessaire, librement, et c'est nécessaire.
Oui, mais on les empêche. Il y a une sorte d'alliance entre Mao Tse-Tung, si je puis dire, et l'ayatollah Khomeini.
Tout en nuance et en finesse. Donc, nous avions Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, sur CNews face à Jean-Pierre Elkabbach en février dernier. Donc, il y a eu cette cabale, hein, si on peut dire, en tout cas, contre l'islamo-gauchisme qui gangrènerait les universités, qui a été d'abord initiée par Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et puis reprise par Frédéric Vidal, et puis beaucoup, beaucoup répétée dans les médias. Qu'est-ce que ça signifie sur, justement, les recherches que tu peux mener en tant que sociologue sur ces questions-là? Quel impact ça peut avoir?
Sur les conditions de possibilité de ma recherche, ou oui, signifie
À la fois sur la réception de ton travail et sur la possibilité pour toi de le poursuivre.
Alors, sur la possibilité pour moi de le poursuivre, je ne sais pas encore. J'espère que je vais pouvoir continuer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments cette année où je me suis dit, ben, en fait, jusqu'à quand on va pouvoir travailler comme ça? Puis c'est pas un hasard, parce qu'en fait, l'université, malgré les oppositions comme celles qu'on a pu entendre avant de la part de chercheurs de générations précédentes, ça reste quand même un espace où le débat a lieu. Et donc, c'est pas un hasard si les gens qui ne veulent pas que le débat ait lieu s'attaquent à l'université en même temps, puisque Mme Vidal a quand même aussi porté une réforme qui casse complètement la recherche publique et l'université publique, qu'elle discrédite aussi moralement après avoir appauvri complètement la fac. Donc, c'est pas un hasard si on s'en prend à ce point de manière anti-intellectualiste à l'université et aux chercheurs dans ce contexte de reprise en main autoritaire. Après, ce que je dirais aussi, c'est que si tous ces gens-là gesticulent, c'est aussi parce que nos travaux ont une portée réelle et touchent à un point réel. Et puis moi, je le vois en présentant mes travaux, que ce soit avant, d'ailleurs même avant la publication de Race ou là de Pour l'intersectionnalité, quand j'ai présenté le livre issu de ma thèse, c'était assez frappant, notamment même dans les séminaires de recherche, auprès des jeunes générations, à quel point elles étaient réactives et certaines venaient nous dire, ça a été aussi le cas quand avec Mathilde Cohen, on a organisé une journée sur la blanchité en France, et énormément de jeunes étudiants et étudiantes qui sont venus nous dire, enfin on parle de ça en France, à l'université. Donc, je crois qu'il y a aussi un phénomène de peur de la part de ces gens qui voient leur monde bien ordonné et bien hiérarchisé disparaître qui craignent ça, quoi.
Et moi, je trouve que ça, c'est, tu le dis en introduction dans ton livre, ouais. Et justement, ça donne une note très positive à toute l'analyse que tu en fais, le fait que ces gens sont en panique totale, oui. Et qu'ils soient crispés, qu'il y ait des conflits, et que ça prouve qu'il y a un élargissement social du débat qui n'est plus circonscrit à des gens diplômés, des gens militants, des gens... Mais on est en train d'en parler dans la presse dite mainstream, donc Le Monde, Libération, qu'il y a des mots comme racisé qui sont sur les plateaux de télé, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire, oui. Ils l'utilisent et ça circule. Et
ça vient de rentrer dans le Larousse après avoir été dans le Robert. Donc maintenant, c'est un mot qui est officiellement validé par les deux grands dictionnaires de langue française.
Et donc les conversations sont en cours. Et
Exactement. Comme intersectionnalité d'ailleurs. On a dit n'importe quoi du terme. Mais en même temps, le terme est là, il circule. Et ça nous donne l'occasion d'expliquer de quoi il s'agit. Et puis voilà, il y a plein de gens maintenant qui connaissent l'intersectionnalité. Voilà.
Il faut le répéter devant son miroir.
Bah merci beaucoup Sarah, c'était un plaisir de te recevoir. On arrive à la fin de ce numéro de Kif ta race avec Sarah Mazouz, donc tu es sociologue, autrice de Race qui est paru en 2020 et co-autrice d'un livre aussi très intéressant dont on n'a pas eu le temps de discuter plus, qui s'appelle Pour l'intersectionnalité, qui est écrit avec Éléonore Lépinard, et tous les deux ouvrages sont publiés aux éditions Anamosa. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, on imagine bien que ce mot race est électrique.
Si vous êtes d'accord, tweetez race.
Voilà, faites monter le hashtag Kif ta race, hein, c'est l'occasion. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir.
Écrivez-nous à kiftaras@binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kiftaras sur Twitter, Facebook et Instagram, ou avec le hashtag Kif ta race. Kif ta race, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Regache et à Naomi Titi pour l'édition.
On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Sarah.
Merci à vous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.